2. Obstacle, cause. L'obstacle pris pour la cause, la disette prise pour l'abondance, c'est le même sophisme sous un autre aspect. Il est bon de l'étudier sous toutes ses faces. L'homme est primitivement dépourvu de tout. Entre son dénuement et la satisfaction de ses besoins, il existe une multitude d'obstacles que le travail a pour but de surmonter. Il est curieux de rechercher comment et pourquoi ces obstacles même à son bien-être sont devenus à ses yeux la cause de son bien-être. J'ai besoin de me transporter à 100 lieues, mais entre les points de départ et d'arrivée s'interposent des montagnes, des rivières, des marais, des forêts impénétrables, des malfaiteurs, en un mot, des obstacles. Et pour vaincre ces obstacles, il faudra que j'emploie beaucoup d'efforts, ou ce qui revient au même, que d'autres emploient beaucoup d'efforts et m'en fassent payer le prix. Il est clair qu'à cet égard, j'eusse été dans une condition meilleure si ces obstacles n'eussent pas existé. Pour traverser la vie et parcourir cette longue série de jours qui sépare le berceau de la tombe, l'homme a besoin de s'assimiler une quantité prodigieuse d'aliments, de se garantir contre l'intempérie des saisons, de se préserver ou de se guérir d'une foule de maux. La faim, la soif, la maladie, le chaud, le froid sont autant d'obstacles semés sur sa route. Dans l'état d'isolement, il devrait les combattre tous par la chasse, la pêche, la culture, le filage, le tissage, l'architecture, et il est clair qu'il vaudrait mieux pour lui que ces obstacles n'existassent qu'à un moindre degré, ou même n'existassent pas du tout. En société, il ne s'attaque pas personnellement à chacun de ces obstacles, mais d'autres le font pour lui, et en retour, il éloigne un des obstacles dont ses semblables sont entourés. Il est clair encore qu'en considérant les choses en masse, il vaudrait mieux pour l'ensemble des hommes ou pour la société que les obstacles fussent aussi faibles et aussi peu nombreux que possible. Mais si l'on scrute les phénomènes sociaux dans leurs détails et les sentiments des hommes selon que l'échange les a modifiés, on aperçoit bientôt comment ils sont arrivés à confondre les besoins avec la richesse et l'obstacle avec la cause. La séparation des occupations, résultat de la faculté d'échanger, fait que chaque homme, au lieu de lutter pour son propre compte avec tous les obstacles qui l'environnent, n'en combat qu'un. Le combat non pour lui, mais au profit de ses semblables, qui à leur tour lui rendent le même service. Or, il résulte de là que cet homme voit la cause immédiate de sa richesse dans cet obstacle qu'il fait profession de combattre pour le compte d'autrui. Plus cet obstacle est grand, sérieux, vivement senti, et plus, pour l'avoir vaincu, ses semblables sont disposés à le rémunérer, c'est-à-dire à lever en sa faveur les obstacles qui le gênent. Un médecin, par exemple, ne s'occupe pas de faire cuire son pain, de fabriquer ses instruments, de tisser ou de confectionner ses habits. D'autres le font pour lui, et en retour, il combat les maladies qui affligent ses clients. Plus ces maladies sont nombreuses, intenses, réitérées, plus on consent, plus on est forcé même à travailler pour son utilité personnelle. À son point de vue, la maladie, c'est-à-dire un obstacle général au bien-être des hommes, est une cause de bien-être individuel. Tous les producteurs font en ce qui les concerne le même raisonnement. L'armateur tire ses profits de l'obstacle qu'on nomme distance, l'agriculteur de celui qu'on nomme faim, le fabricant d'étoffes de celui qu'on appelle froid, l'instituteur vit sur l'ignorance, le lapidaire sur la vanité, l'avoué sur la cupidité, le notaire sur la mauvaise foi possible, comme le médecin sur les maladies des hommes. Il est donc très vrai que chaque profession a un intérêt immédiat à la continuation, à l'extension même de l'obstacle spécial qui fait l'objet de ses efforts. Ce que voyant les théoriciens arrivent, qui fondent un système sur ses sentiments individuels et disent « Le besoin, c'est la richesse, le travail, c'est la richesse, l'obstacle au bien-être, c'est le bien-être, multiplier les obstacles, c'est donner de l'aliment à l'industrie. » Puis surviennent les hommes d'État. Ils disposent de la force publique. Et quoi de plus naturel que de la faire servir à développer, à propager les obstacles, puisqu'aussi bien c'est développer et propager la richesse Ils disent, par exemple, si nous empêchons le fer de venir des lieux où il abonde, nous créerons chez nous un obstacle à s'en procurer. Cet obstacle vivement senti déterminera à payer pour en être affranchi. Un certain nombre de nos concitoyens s'attachera à le combattre, et cet obstacle fera leur fortune. Plus même il sera grand, plus le minerai sera rare, inaccessible, difficile à transporter, éloigné des foyers de consommation, plus cette industrie, dans toutes ses ramifications, occupera de bras. Excluons donc le fer étranger. Créons l'obstacle afin de créer le travail qu'il combat. Le même raisonnement conduira à proscrire les machines. Voilà, dira-t-on, des hommes qui ont besoin de loger leur vin. C'est un obstacle. Et voici d'autres hommes qui s'occupent de le lever en fabriquant des tonneaux. Il est donc heureux que l'obstacle existe, puisqu'il alimente une portion du travail national et enrichit un certain nombre de nos concitoyens. Mais voici venir une machine ingénieuse qui abat le chêne, les caries, le partage en une multitude de douves, les assemble et les transforme en vaisseaux vinaires. L'obstacle est bien amoindri, et avec lui la fortune des tonneliers. Maintenons l'un et l'autre par une loi. Proscrivons la machine. Pour pénétrer au fond de ce sophisme, il suffit de se dire que le travail humain n'est pas un but, mais un moyen. Il ne reste jamais sans emploi. Si un obstacle lui manque, il s'attaque à un autre, et l'humanité est délivrée de deux obstacles par la même somme de travail, qui n'en détruisait qu'un seul. Si le travail des tonneliers devenait jamais inutile, il prendrait une autre direction. Mais avec quoi, demande-t-on, serait-il rémunéré ? Précisément, avec ce qui le rémunère aujourd'hui. Car quand une masse de travail devient disponible par la suppression d'un obstacle, une masse correspondante de rémunération devient disponible aussi. Pour dire que le travail humain finira par manquer d'emploi, il faudrait prouver que l'humanité cessera de rencontrer des obstacles. Alors le travail ne serait seulement impossible, il serait superflu. Nous n'aurions plus rien à faire parce que nous serions tout puissants et qu'il nous suffirait de prononcer un fiat pour que tous nos besoins et tous nos désirs fussent satisfaits.